Bien, oui, quelques petites remarques et qui me permettront de rebondir par rapport à ce qui était avancé par donc les commentateurs et les discutants. D'abord, ce qui nous a frappé dans la source qu'on a étudiée, c'est son caractère tout à fait original, caractère original de cette correspondance qui assume totalement le discours qu'elle produit. Toutes les lettres, il faut le savoir, sont des lettres qui sont signées, ce qui est très rare dans les correspondances qui sont envoyées à des autorités et qui remettent en cause le déroulement du conflit ou le fonctionnement du conflit. Et c'est aussi la raison pour laquelle on avait produit cette communication, c'est que cet acte d'écriture, il est vécu comme un acte de désobéissance. On a l'un des locuteurs qui parle d'un acte d'indiscipline voulu. Donc on est vraiment là tout à fait au cœur du sujet. Le deuxième point sur lequel je voulais dire deux mots, c'est qu'on est en présence, à la lecture de ces lettres, d'un tissu de récrimination extrêmement divers. Et ce qui frappe, c'est pas tant l'intensité des mots qui sont endurés que le spectacle de l'iniquité, hein, comme ça a déjà été avancé, mais un spectacle absolument multiforme. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'un des scripteurs appelle ces honteuses embuscades, hein, avec une expression très, très mignonne, mais il s'agit de quantité de clivages qui sont perçus et ressentis comme insupportables. Clivages entre les paysans et les non-paysans, les paysans qui bénéficient de permissions agricoles. Clivages au niveau de l'affectation au front, entorse par rapport aux règles d'affectation, récrimination en tout genre concernant le ressenti par rapport à la vie chère, notamment opposition entre les réservistes et les militaires d'active, tout cela délimite des clivages qui fonctionnent vraiment en tous sens. Alors, pour répondre à la question d'Antoine Pro, effectivement, on n'a pas produit de statistiques, d'abord parce que notre échantillon était un échantillon assez peu, comment dire, conséquent. Mais évidemment, on aurait pu. Hein, voilà. Donc on fait. on corrigera effectivement le tir dans la publication, si publication il y a. Ce qu'on a pu remarquer dans l'étude de ces lettres, c'est qu'on a effectivement beaucoup d'officiers subalternes qui se manifestent. Et la présence de ces officiers subalternes, de quelques sous-officiers aussi, me paraît à mon sens extrêmement intéressante, parce que ce sont eux qui sont à l'interface entre le haut commandement et la troupe, et on est là dans ce processus de négociation, d'interprétation des ordres. Alors on a effectivement, on a fait qu'effleurer cette question, mais moi elle me paraît extrêmement intéressante, et il me semble que des travaux manquent sur le rôle des sous-officiers et des officiers subalternes, et la façon dont ils sont perçus, dont ils se perçoivent, dont ils perçoivent leur rôle dans la guerre. Donc des doléances qui sont effectivement multiples, qui ont en commun d'être exprimées dans un même langage de justice sociale, et ces doléances, elles sont commandées par la représentation de ce qu'est pour les locuteurs une guerre acceptable. Et cette représentation d'une guerre acceptable, elle est bien évidemment, elle renvoie bien évidemment à la culture démocratique, on l'a dit, ils sont soldats et citoyens, et souvent ils mettent en avant leurs droits de citoyens, c'est très net sur la question des permissions. On a quantité de lettres qui abordent cette question des permissions qui sont refusées, et on voit des soldats qui produisent des textes législatifs, qui viennent avec des extraits du journal officiel, et qui, évidemment, n'ont pas gain de cause auprès des officiers, et qui se retournent vers la commission de l'armée. Ce recours à la commission de l'armée, il montre bien que, finalement, l'institution militaire, l'armée, n'est pas le seul horizon des combattants. Et du coup, ces lettres, elles participent aussi d'une tentative de négociation, de renégociation de la relation d'autorité, la commission de l'armée apparaissant comme le recours ultime. Et cette commission de l'armée, par ailleurs, elle répond aux pétitionnaires. elle répond à ceux qui leur écrivent. Et on a dans certains dossiers des copies de la réponse qui en fait n'a pas atteint le destinataire parce que soit il est mort, soit il a changé d'adresse. Et donc on a la preuve que la commission fait réellement son travail. Et elle le fait de façon extrêmement scrupuleuse. Et puis enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, outre le fait que moi ce qui m'a frappé à la lecture de ces lettres, c'est la conf. Alors il y a sans doute un effet de source, c'est vrai, mais c'est la confiance dans les institutions représentatives de la nation. Et c'est vrai qu'on a peut-être souvent tendance à insister sur l'antiparlementarisme. Là, on est très loin de l'antiparlementarisme. Enfin, ces lettres, elles nous ont tout à fait intéressés parce qu'elles s'inscrivent dans cette zone grise entre acceptation et rejet, entre obéissance et désobéissance. Une zone grise à tel point que l'on ne trouve absolument aucune mention dans ces lettres de défaitisme. Le défaitisme est totalement absent. Et on ne trouve pas non plus de passage relatif à la haine de l'ennemi. L'ennemi n'est pas non plus présenté, il n'est pas, évoqué, et surtout pas en des termes dévalorisants. Voilà, je vous remercie.
Merci bien. Effectivement, ça serait, pour reprendre la question de François Rousseau, pertinent de savoir si tout ce retour à une forme de légitimité est légitime, si tout n'existe dans d'autres armes.
Oui, je crois quand même qu'on... On pouvait faire quelques statistiques. on a été un peu pris dans le temps. Moi, je crois aussi ce qui nous a frappé, c'est vraiment l'idée d'aménager la guerre. Quoi. C'est ni il faut que ça finisse, ni on en a. Elle est vivable à condition que des règles soient respectées et on fait appel au pouvoir civil pour ça. Et le pouvoir civil répond, alors je voulais juste dire deux choses qui sont un peu en dehors de la communication, c'est que sur le règlement militaire, il y a des tentatives de réforme émanant du Parlement en 1915-16, autour de gens comme Paul Meunier, évidemment, qui sont un peu des marginaux, mais quand même, il y a des tentatives de modification du règlement, et la commission de l'armée, elle produit sur les mutineries, pendant l'été 17, des rapports. Franchement, je m'excuse, mais les historiens actuels n'ont pas fait mieux. Hein. Voilà.